Merci d'écouter RFI. 8h à Washington et à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi. Dans quelques minutes, nous irons à la rencontre de migrants à la frontière mexicaine. Désespérés après les annonces de Donald Trump dès le premier jour de son mandat, nous serons aussi en ligne avec notre envoyé spécial à Los Angeles qui a rencontré des travailleurs étrangers et avec le directeur de l'agence haïtienne Alter Press à Port-au-Prince où l'on s'inquiète de la fin annoncée du programme humanitaire de Joe Biden concernant l'immigration des Haïtiens. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, vous nous parlerez du leader du mouvement RPRAC de retour devant les juges aujourd'hui en Martinique.
Le 11 novembre dernier, Rodrigue Petitot avait forcé la porte, entre guillemets, de la résidence privée du préfet. Nous entendrons tout à l'heure la secrétaire de son mouvement, le RPRAC.
À tout à l'heure. Mais d'abord, c'est le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on commence par la situation au Proche-Orient et la situation très tendue en Cisjordanie.
L'armée israélienne mène une opération militaire à Jenin. 6 Palestiniens ont été tués, 35 autres blessés. La Cisjordanie est occupée et sous tension, d'autant plus que les colons israéliens ont reçu un soutien de taille, celui de Donald Trump. Le président américain a annulé les sanctions décidées par son prédécesseur, Nicolas Falaise.
Il s'agit d'une douzaine de colons radicaux, auteurs de violences sur des Palestiniens de Cisjordanie. Une dizaine d'organisations liées aux mêmes individus ont également été visées par les 5 vagues de sanctions américaines de la période Biden. Sanctions limitées, aux effets limités, mais lorsque la précédente administration américaine les a décidées, il y a un peu moins d'un an, le message était clair. Les États-Unis, alliés d'Israël, y compris dans la guerre à Gaza, n'acceptaient pas la flambée de violence causée par des colons israéliens en Cisjordanie. Ces actes ne sont pas nouveaux, mais ils se sont multipliés depuis octobre 2023 dans une assez large impunité. Donald Trump fait donc machine arrière, mais des sanctions européennes, françaises et canadiennes restent en vigueur contre des colons radicaux et des organisations les soutenant. Le retour au pouvoir de Donald Trump était très attendu ici par les partisans de la colonisation israélienne des territoires palestiniens occupés, qui rêvent que le président américain permette d'exaucer leur vœu d'une annexion de tout ou partie de la Cisjordanie. Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI.
Côté Gaza, en revanche, le Hamas poursuit les libérations d'otages conformément à l'accord de trêve. 4 Israéliennes vont être relâchées samedi prochain et plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés dans l'enclave palestinienne.
Aux États-Unis, la journée d'hier s'est achevée comme elle avait commencé, sur les chapeaux de roue pour Donald Trump.
Après un discours d'investiture très offensif, le nouveau président américain a tapé un grand coup en signant tous azimuts des décrets pêle-mêle état d'urgence à la frontière mexicaine contre l'immigration illégale, état d'urgence énergétique aussi pour doper la production d'hydrocarbures, grâce accordée aux émeutiers du Capitole, retrait également de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, très critiquée par le président américain pour sa gestion de la pandémie du Covid.
Son grand allié Elon Musk, lui, a balayé la polémique suscitée lors de son intervention à la tribune à Washington hier.
Venu remercier les sympathisants de Donald Trump, l'homme le plus riche du monde est accusé d'avoir fait un salut fasciste ou nazi par deux fois. Yelena Tomic.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you.
Elon Musk vient de finir son discours. Pour remercier ses partisans de leur soutien qui a permis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'homme d'affaires se frappe vigoureusement la poitrine avant de tendre son bras droit, paume ouverte. Un geste qu'il répète en se tournant vers le reste de la foule derrière lui. Entre ces deux gestes identiques, il ajoute « de tout cœur avec vous ». C'est grâce à vous que l'avenir de la civilisation est assuré. Accusé de salut nazi, Musk ironise. Dans un message posté sur sa plateforme X, il suggère à ses détracteurs de trouver de meilleurs coups tordus. L'attaque du type « tout le monde est Hitler » est selon lui tellement usée. Entre effroi, étonnement et démenti, les réactions sont divisées. Des historiens confirment qu'il s'agissait bien d'un Sieg Heil ou de style fasciste. D'autant que le récent soutien de Musk à l'AFD, l'extrême droite allemande, ne plaide pas pour lui. Son passé familial non plus. Ses grands-parents maternels canadiens ont soutenu les nazis puis l'apartheid en Afrique du Sud. D'autres internautes internautes évoquent un geste maladroit dans un moment d'émotion, rappelant le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme dont est atteint le patron de Tesla.
Voilà, retour à l'investiture de Donald Trump et la liste de ses invités au Capitole. Regardez de très près.
Oui, loin de la tradition, beaucoup d'élus républicains ont été relégués à l'extérieur, au profit notamment de nombre de grands patrons présents sous la coupole, comme le français Bernard Arnault, le seul français d'ailleurs. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour.
Le patron du groupe de luxe LVMH espère bien profiter de sa relation privilégiée avec Donald Trump pour protéger ses intérêts aux États-Unis.
Le portrait d'un des hommes qui comptera le plus probablement dans les années qui viennent. Donald Trump, c'est un milliardaire mythique à l'américaine d'une quarantaine d'années dont la fortune s'est faite essentiellement au départ dans l'immobilier.
1989, Donald Trump n'est encore qu'un mania de l'immobilier inconnu en dehors des États-Unis. La télévision française lui consacre un portrait. On y aperçoit Bernard Arnault tout sourire à sa table. L'homme d'affaires vient à peine de prendre la tête d'LVMH, mais les deux hommes se fréquentent depuis le début des années 1980, quand le français fuit le gouvernement socialiste de François Mitterrand pour tenter l'aventure dans l'immobilier à New York, une relation ancienne qui a porté ses fruits quand lors de son premier mandat, Donald Trump impose une taxe de 25% sur les vins et spiritueux européens, le champagne, produit phare de LVMH, est commodément exclu de ses nouveaux tarifs douaniers. De son côté, Bernard Arnault ne cesse de donner des gages à Donald Trump, il fait construire une usine Louis Vuitton au Texas, rachète en 2019 le joaillier new-yorkais Tiffany, une marque que Donald Trump affectionne tellement qu'il a donné son nom à la plus jeune de ses filles, LVMH qui a ouvert récemment un magasin Tiffany à New York dans des locaux appartenant à Donald Trump.
Nathanaël Vitran du service éco d'RFI. De l'autre côté du pays, les pompiers se battent toujours à Los Angeles contre les incendies. Des progrès sont signalés, les principaux feux sont petit à petit circonscrits, mais le vent s'est levé hier de nouveau. De violentes rafales ont parfois dépassé les 140 km/h, une puissance comparable à un ouragan.
Plus au sud, sur le continent américain, en Colombie, le président a décrété l'état d'urgence.
La situation est critique dans plusieurs régions du pays. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
En moins d'une semaine, des affrontements entre guérillas ont déjà fait 100 morts et 20 000 Colombiens ont fui leur domicile.
Oui, c'est un constat d'échec pour le président Gustavo Petro, lui qui était arrivé au pouvoir en 2022 en promettant de sortir par le dialogue la Colombie des conflits armés. Aujourd'hui, les violences font rage dans pas moins de trois zones du pays. L'Est, à la frontière avec le Venezuela, où la guérilla de l'ELN a attaqué les dissidents des FARC dans la région du Catatumbo autour du contrôle de la production de cocaïne. Bilan, au moins 80 morts et 20 000 déplacés. Dans le sud, deux factions de dissidents des FARC s'opposent. L'une négocie la paix avec le gouvernement, contrairement à l'autre. 20 personnes ont été tuées. Enfin, dans le nord, le département de Bolivar, 9 personnes sont mortes dans des affrontements entre l'ELN et le cartel de narcotrafiquants du clan del Golfo. L'état d'urgence interne et économique doit permettre au gouvernement de prendre des mesures extraordinaires, de débloquer des ressources financières ou de restreindre les déplacements. Pour le moment, l'armée n'a engagé le combat avec aucun des groupes rebelles. Et si 5000 soldats ont été déployés dans le Catatumbo, les autorités disent se concentrer pour le moment sur l'aide aux populations menacées. Une deuxième phase a été annoncée où des soldats seront déployés dans les zones critiques pour repousser les insurgés.
Christophe Paget du service international d'RFI. Pour la première fois en Corée du Sud, Yoon Suk-yeol a assisté à une audience de son procès en destitution. Suspendu de ses fonctions de président, il s'est défendu devant la Cour constitutionnelle. Il n'a pas ordonné à l'armée d'intervenir pour empêcher les députés de contrecarrer sa volonté d'imposer la loi martiale. Les juges trancheront en juin. Ils décideront si Yoon Suk-yeol doit ou non être déchu définitivement de son poste de président. Enfin, un mot de cinéma. Avec la disparition du réalisateur des Valseuses ou Trop belle pour toi, Bertrand Blier est mort à l'âge de 85 ans. Il a beaucoup fait tourner Gérard Depardieu et Patrick Devers. Bertrand Blier avait remporté en 79 l'Oscar du meilleur film étranger pour Préparer vos mouchoirs. Voilà Anne, c'est la fin de ce journal.
Merci Karine Bellicha. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain pendant les 20 prochaines minutes et direction tout de suite les États-Unis.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Il n'y a pas vraiment eu de surprise hier dans le discours d'investiture de Donald Trump, mais cela n'empêche ni la sidération, ni la peur d'une partie des États-Unis et des pays voisins. Comme promis, le nouveau président américain a annoncé qu'il décréterait l'état d'urgence à la frontière mexicaine, frontière qu'il compte fermer, et qu'il allait supprimer le programme CBP-1, système censé faciliter les démarches de demande d'asile en permettant aux migrants de solliciter un rendez-vous du Mexique. Conséquence, des milliers de personnes aujourd'hui sont sans perspective à la frontière. Reportage de Gwendolina Duval, envoyée spéciale au Paso de Norte. C'est l'un des points d'entrée aux États-Unis.
Non, mon fils, nous ne pouvons plus passer. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Cette femme vient d'apprendre qu'elle ne pourra plus déposer une demande d'asile aux États-Unis, malgré son rendez-vous programmé cet après-midi.
Je trouve que c'est injuste. Ce matin encore, des personnes sont entrées. Pourquoi, à nous, on ne nous donne pas cette chance ? Pourquoi ?
Comme une centaine d'autres personnes qui attendaient depuis tôt ce matin, Yaledi a eu l'espoir d'être parmi les dernières à bénéficier du programme CBP One.
Je crois que c'est fini, ça. L'application ne fonctionne même plus.
Elle raconte que le programme a cessé quelques instants seulement après le premier discours de Donald Trump. Comme cette Vénézuélienne, des milliers de migrants encore au Mexique sont désormais dans l'inconnu la plus totale.
J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, 7 mois de ma vie ici, dans ce pays, à perdre de l'argent et de l'énergie.
Dans le centre-ville de Ciudad Juárez, Carly Fernandez vient aussi de recevoir un courriel d'annulation de son rendez-vous prévu en février. Elle essaye de convaincre sa famille de rester un peu en espérant qu'une solution viendra dans les jours à venir.
On a tant lutté pour arriver là. Il faut attendre encore pour voir. Ma sœur veut rentrer. Elle fatigue de tout ce qu'on a enduré pour arriver ici. Pour rien.
Au Mexique, on s'interroge désormais de savoir quand arriveront les expulsés de Donald Trump et combien seront-ils. Gwendolina Duval, Ciudad Juárez, RFI.
De l'autre côté de la frontière aux États-Unis, les arrestations et les expulsions pourraient commencer dès aujourd'hui partout dans le pays. Achim Lippold, vous êtes notre envoyé spécial à Los Angeles. Vous avez passé la journée d'hier avec des immigrés bénévoles qui nettoient le quartier d'Altadena, dévasté il y a 2 semaines par des incendies. Quelle est l'ambiance sur place ?
Eh bien, l'ambiance sur place était étonnamment positive. J'ai parlé avec une Mexicaine sans papier qui vit à Los Angeles depuis 20 ans. Elle n'a pas peur de ce qui pourrait lui arriver. Elle se sent protégée par l'ONG qui organise cette initiative de nettoyage. En revanche, Rosé, un migrant venu du Guatemala il y a 18 ans, également en situation irrégulière, est plus inquiet, mais il est heureux de pouvoir s'investir dans cette cause.
J'ai perdu mon emploi parce que je travaillais pour une famille de Pacific Palisades qui a perdu sa maison. Je m'occupais de leur jardin, alors comme je n'ai plus rien à faire, je viens ici depuis plusieurs jours pour aider à nettoyer. J'essaye de redonner un peu à ce pays qui m'a tant donné.
Et pourtant, c'est ce même pays qui veut maintenant expulser ces gens qui déblaient les quartiers dévastés.
Exactement, c'est justement cette contradiction que l'organisation de défense des travailleurs immigrés, Andilon, veut mettre en lumière avec cette initiative. Le message est clair, voyez, nous faisons le travail que personne d'autre ne fait. Écoutons Nadia Marine Molina de cette organisation.
C'est un message que nous envoyons le jour même de l'investiture à Washington. Alors que les immigrants sont stigmatisés par le nouveau gouvernement, ici, des travailleurs immigrés se mobilisent pour aider leur quartier.
Ils se mobilisent alors qu'ils risquent l'expulsion, c'est presque surréaliste, Arim.
Oui, c'est vraiment paradoxal, hein, mais dans ce contexte, en fait, se regrouper et faire quelque chose d'utile ensemble, ça leur fait du bien. Chaque matin, des centaines de bénévoles immigrés partent avec des pelles pour déblayer les gravats à Altadena. Beaucoup sont eux-mêmes dans des situations extrêmement précaires. Ils n'ont pas accès à l'aide fédérale. Certains évitent même les centres d'aide publique par peur des contrôles de la police fédérale de l'immigration qu'ils appellent la migra en espagnol. L'inquiétude sur ce qui va se passer dans les prochains jours est bien réelle, explique José.
Mucho te voy a decir porque todos mis amigos...
Tous mes amis, ceux qui n'ont pas de papier, disent « Mais comment je vais faire ? J'ai une voiture, j'ai un crédit, ça fait des années que je suis ici. Comment je vais faire s'ils me renvoient dans mon pays alors que j'ai des enfants ici ?»
En fait, c'est une communauté doublement touchée par les incendies et par leur statut.
Exactement. Certains ont vraiment tout perdu, leur maison, leur travail. Et maintenant, avec la nouvelle administration Trump, ils risquent en plus l'expulsion après avoir refait leur vie ici aux États-Unis. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas encore y croire. En tout cas, la plupart de ceux à qui j'ai parlé ne se sont pas encore préparés à cette éventualité.
Achim Lippold, envoyé spécial de RFI à Los Angeles. Autre décision majeure de Donald Trump survenue dans les heures suivant son retour au pouvoir. Le retour de Cuba sur la liste noire des États qui financent le terrorisme, juste après que Joe Biden avait décidé exactement l'inverse. Et puis, le début de la guerre commerciale avec ses voisins, Mexique et Canada. 25% de droits de douane dès le 1er février, selon le nouveau président américain. Et puis, il y a cette grâce accordée aux personnes impliquées dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Ce jour où des milliers de ses partisans avaient tenté d'empêcher le Parlement de valider la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Mais Donald Trump, lui, a toujours présenté une autre version de l'histoire. D'ailleurs, il ne reconnaît pas sa défaite à l'élection de 2020, pas plus que les amis, les proches de ses émeutiers. Tous étaient réunis hier soir devant la prison de Washington et notre correspondant Guillaume Nodin est allé à leur rencontre.
Freedom! Freedom, liberté pour les émeutiers du 6 janvier. En attendant leur sortie, ils sont quelques dizaines à chanter dans le froid. Depuis près de 2 ans et demi, ils se réunissent là tous les soirs pour soutenir et parfois pour parler à ceux qui sont emprisonnés, comme Dominic Box, qui affirme n'avoir commis aucune violence et attend de sortir depuis 18 mois.
Nous sommes habillés, nos sacs sont faits et nous sommes prêts à partir. Ça ne fait qu'un jour, mais il se passe tellement de choses positives que je sais que quand je vais sortir, que ce soit ce soir ou demain matin, ce sera la cerise sur le gâteau.
Parmi ceux qui attendent à la sortie depuis le début, il y a Mickey Witthoft. Elle est la mère d'Ashley Babbitt, tuée ce jour-là par un policier, et elle est plus que prête.
Nous avons des gens prêts à les emmener à la maison ou ailleurs, directement où ils veulent aller. Ça peut être chez moi, dans une autre maison, dans un hôtel. Il y a des gens qui ont fourni des fonds, des vêtements, des brosses à dents. Et vous savez, j'ai des sentiments mêlés chaque jour. Mais voir ces gars sortir d'ici, ce n'est pas un sentiment mêlé, c'est juste une victoire pour Ashley.
Pour d'autres, les sentiments mêlés, c'est la joie et un peu de tristesse parce que pendant 903 jours, ils se sont réunis et c'est désormais terminé. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Cette avalanche de décrets aux États-Unis, elle pose un certain nombre de questions, des questions légales en ce qui concerne leur application, Anne Verdaguer. Et la presse américaine s'en fait l'écho aujourd'hui.
Oui, car si le message, lui, est très clair, dit le New York Times, certains de ces décrets anti-immigration feront face à de gros défis d'un point de vue légal et pourraient être compliqués, voire impossibles à mettre en œuvre. Pour exemple, l'état d'urgence décrété à la frontière mexicaine et le rôle de l'armée qui pourrait être sollicité pour autre chose qu'un simple maintien de l'ordre. Car l'on peut lire dans ce décret que l'armée aidera à refermer les frontières, maintenir la souveraineté, l'intégrité du territoire et la sécurité des États-Unis en repoussant les différentes formes d'invasion. Cela pourrait entrer en opposition avec une loi datant de 1870, explique le quotidien, appelée le Posse Comitatus Act, qui limite l'usage des troupes fédérales à des fins de maintien de l'ordre à l'intérieur des États-Unis. Le New York Times fait allusion également à la volonté de Donald Trump de mettre fin aux droits du sol. Cela viendrait contredire le 14e amendement, vieux de 157 ans. Et d'ailleurs, dans les heures qui ont suivi cette annonce, explique le New York Times, l'Union des libertés civiles américaines a déjà annoncé sa volonté d'intenter un procès.
Le retour de Donald Trump aux affaires, redouté aussi par plusieurs pays voisins des États-Unis sur le continent et notamment en Haïti, Anne.
Oui, c'est-à-dire dans le Nouvelliste, il avait fait des Haïtiens installés à Springfield dans l'Ohio les emblèmes de l'immigration délétère, rappelle Franz Duval, et le président américain avait à plusieurs reprises insulté ceux qui habitent un sale trou, pour employer un euphémisme, et sont porteurs du sida. Si l'on ignore si Donald Trump va se pencher sur les affaires haïtiennes, autrement que via son programme restrictif sur l'immigration, poursuit l'éditorialiste, il a déjà annoncé la couleur. Le programme Humanitarian Parole, qui bénéficie à de nombreux Haïtiens, a pris fin ce jour même, quelques heures après sa prestation de serment. Le président Donald Trump peut nous enfoncer, nous laisser cuire dans notre jus ou nous ignorer. Dans tous les cas, nous avons des devoirs à faire, conclut le Nouvelliste.
On va continuer à lire la presse haïtienne. Nous sommes en ligne avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Donald Trump annonce donc la fin du programme Humanitarian Parole pour 4 pays, dont Haïti. Et ça, évidemment, c'est une décision qui est très importante pour les Haïtiens.
Et oui, ça va faire des vagues en Haïti et dans les communautés haïtiennes aux États-Unis. Un jour triste, en effet, pour des milliers d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui comptaient sur ce programme, appelé encore programme Biden, comme moyen pour fuir le pays, un pays instable où l'insécurité et la violence ainsi que leurs corollaires sont devenus des problèmes cuisants. C'était une voie pour trouver refuge aux États-Unis et tenter de se créer un autre avenir. C'est certainement un coup dur pour eux et c'est aussi l'incertitude pour ceux-là qui ont déjà bénéficié du programme temporaire. Ils ne savent pas ce que sera leur sort, alors que le nouveau président américain brandit la menace de centaines de milliers d'expulsions.
Voilà, il y a aussi des expulsions qui s'annoncent massives. C'est ce qu'il avait promis, en tout cas, pendant sa campagne. Eh bien, à propos de l'immigration, justement, une dizaine de pays d'Amérique latine s'engagent à travailler avec Haïti et plus généralement à soutenir la stabilité du pays, Godson.
La déclaration commune de ces pays d'Amérique latine a été adoptée à l'issue d'un sommet sur la mobilité humaine le long de la route nord du continent, un sommet tenu au Mexique à la veille de la prise de fonction de Trump, un sommet présidé aussi par la chef de l'État mexicaine, Claudia Sheinbaum, déclaration paraphée par le Mexique, le Brésil, le Venezuela, la Colombie, Cuba, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et Belize. Ces gouvernements renouvellent leur volonté de contribuer de manière déterminée en fonction des capacités de chaque pays à accompagner Haïti dans ses efforts pour rétablir un environnement de sécurité humaine dans le pays.
Voilà, parmi les pays signataires de cette déclaration adressée à Haïti, il y a la Colombie dont le président doit se rendre à Jacmel demain.
La visite du président Gustavo Petro à Jacmel s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Haïti et la Colombie, couvrant les domaines de la sécurité, de l'assistance humanitaire, du commerce et de l'éducation. Pourquoi Jacmel? Eh bien, selon les historiens, c'est là que le libérateur latino-américain Francisco de Miranda créa le drapeau de la libération d'une grande partie du continent sud-américain en ajoutant le jaune au bicolore bleu et rouge d'Haïti. Ce drapeau restera par la suite l'étendard de trois pays, la Colombie, l'Équateur et le Venezuela.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On vous retrouve mardi prochain sur cette antenne. Et d'ici là, on peut vous lire sur alterpress.org. Vous évoquiez le président colombien attendu donc en Haïti. Alors que son pays fait face à une vague de violence dont on va parler avec vous, Anne Verdagué, des affrontements entre guérillas, ils ont déjà fait plus d'une centaine de morts, 20 000 déplacés et poussé Gustavo Petro à déclarer l'état d'urgence.
Oui, le décret sera effectif pour 90 jours avec possibilité de prolongation jusqu'à 270 jours, précise l'Expectador dans son édition de ce jour. Mais le président colombien aura besoin de l'aval du Parlement s'il veut prolonger. Pour Semana, qui cite des sources gouvernementales, l'état d'urgence ne s'appliquera pas à tout le territoire, mais dans les municipalités les plus touchées du nord de Santander, en raison des affrontements entre l'ELN et les dissidents des FARC. C'est un caprice pour gouverner par décret, fustige l'opposition. Dans El Espectador, la sénatrice Maria Fernanda Cabal du Centre démocratique estime que la situation dans la région du Catatumbo, autour du contrôle de la production de cocaïne, a été créée par le président lui-même. La vague de violence, vous l'avez dit, y a fait 80 morts et 20 000 déplacés.
Anne Verdagué, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. Un mot encore de l'actualité du continent en Argentine, où le président Milei n'en a pas fini de tronçonner les services publics avec cette semaine le secteur de la santé dans le viseur. Le gouvernement a décidé de licencier 1 400 personnes. Décision contestée notamment par le personnel de l'hôpital de santé mentale Laura Bonaparte dans la capitale. Notre correspondant Théo Conscience est allé rencontrer des protestataires.
Daniela, psychologue, Karen, assistante pharmacienne, Lia, médecin généraliste, et la liste continue. Sur la façade de l'hôpital Laura Bonaparte sont affichés les noms des quelques 200 employés licenciés cette semaine, un tiers du personnel total de l'établissement. Actuellement, l'hôpital ne peut plus fonctionner, alerte Marcelo Olmedo, psychologue aux urgences.
Cada vez tenemos más demanda.
On a de plus en plus de demandes et de plus en plus de patients qui ne font pas forcément partie des gens les plus défavorisés, mais qui ne peuvent plus payer leur mutuelle car ils doivent prioriser le loyer ou la nourriture.
En 2024,
près de 100 000 personnes ont reçu des soins à l'hôpital Bonaparte. Mais au-delà de cet établissement, les 1 400 licenciements annoncés par le ministère de la Santé en début de semaine mettent en danger tout le système de santé public et gratuit, estime Franco, psychologue.
La priorité du gouvernement est de satisfaire des intérêts qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux des personnes les plus vulnérables de notre pays.
Début décembre, le porte-parole du gouvernement a annoncé un projet de loi destiné à supprimer la gratuité des soins pour les étrangers non résidents dans les hôpitaux publics argentins. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
À Buenos Aires, il est 10h24.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique, où le leader du RPRAC est de retour devant les juges aujourd'hui.
En détention provisoire depuis un mois et demi, Rodrigue Petitot, comparé devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour menaces et intimidations sur des agents publics, violation de domicile, rébellion, incitation à la rébellion, n'en jetait plus. Le 11 novembre dernier, il avait, entre guillemets, forcé la porte de la résidence privée du préfet. Aude Goussard, la secrétaire de son mouvement, le RPRAC, était ce matin l'invitée de la première Martinique. Elle répondait aux questions de Denis.
C'est un raccourci rapide que de faire à chaque fois la relation entre les dégradations et le RPRAC. Je pense que personne n'arrive encore à admettre que le RPRAC avait prévenu dès juillet par une injonction que ça allait mal au pays. Nous sommes des hommes et des femmes de terrain au RPRAC et nous sentions bien que la cocotte n'allait pas tarder à exploser. Et plutôt que de juger positivement notre injonction, elle a été perçue comme une provocation et un appel à la violence. Aujourd'hui, je pense que quand on regarde les critères sociaux et l'ensemble des problématiques qui nous touchent, on a une société qui n'est plus au bord de l'implosion, mais qui implose. Et plutôt que de nous prendre en compte, on a préféré nous stigmatiser comme si le RPRAC, qui a moins de 2 ans d'existence, était responsable de tous les maux de la société de la Martinique. Donne-nous l'âge, pas ni problème, nous ni do l'âge.
Le dollar, je vous aurais compris. Aude Goussard, secrétaire du RPRAC, direction la Guadeloupe avec un tout autre sujet. Le ras-le-bol, il faut dire les choses comme elles sont, du maire de la commune de Sainte-Rose, dans le nord de la Basse-Terre, commune où les coupures d'eau seraient récurrentes. Écoutez la colère d'Adrien Baron au micro de la première.
2 usines sur 3 dysfonctionnent, vraisemblablement parce qu'elles manquent d'entretien. Et alors moi j'ai interrogé les techniciens qui ne sont pas en mesure de me donner tous les éléments, mais apparemment il semblerait que le travail ne serait pas fait pour entretenir ces usines. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui vous mettez en danger la vie des gens en ne leur donnant pas d'eau. Vous avez des malades, vous avez des handicapés, vous avez des personnes qui sont dialysées. On ne leur donne pas d'eau simplement parce qu'on ne change pas quelques pièces dans une machine alors que les personnes qui sont en charge de l'entretenir vous disent depuis des mois, voire des années, qu'il y a nécessité de faire un changement. Ce n'est pas acceptable. Je ne sais pas si aujourd'hui je ne vais pas prendre une décision de porter plainte contre le SMGAG pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que c'est inacceptable aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça.
SMGEAG, syndicat mixte de gestion et d'assainissement de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Bon après-midi Anne, à demain.
À demain Benoît Ferrand. Merci à tous d'être avec nous. On se quitte avec un peu de musique. Celle de Poirier avec Jimena Angel, voici le titre Cantandote.
Todos los días yo vengo cantándote. Oh yeah. Todos los días yo vengo cantándote.
Avec Poirier et Jimena Angel que se termine RFI Midi. L'émission était réalisée aujourd'hui par Jérémy Boucher. Vous restez avec nous sur RFI dans quelques secondes maintenant de vive voix. Pascal Paradou reçoit le chanteur Bertrand Belin qui vient aujourd'hui parler littérature et de ce roman, La Figure. Très bonne journée à tous. Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Alors n'hésitez plus à participer à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Plus que quelques jours pour candidater sur App Afrique, appafrique.rfi.fr.